L'instant roman, l'actualité vous est présentée par Radio-Chico Romandie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition du mois de février 2012. 10e édition de votre journal de l'actualité L'Instant Roman. Cette édition anniversaire sera l'occasion de rediffuser deux anciens reportages marquants de l'actualité de l'année précédente. C'était en février 2011, le reportage consacré à l'anniversaire du droit de vote féminin suisse. Reportage diffusé dans la première édition de L'Instant Roman. Bye bye Oswald Grubel, bonjour Sergio Ermotti, reportage diffusé en octobre 2011. Le congrès de Davos vient d'avoir lieu dans les montagnes suisses. Un sujet phare, la demande d'énergie et de nourriture. Enquête. Nous terminerons cette édition par le dossier de la rédaction. Il sera aujourd'hui consacré aux Jeux Olympiques de Londres. Un budget énorme, une sécurité toute faite, les jeux sont faits à Londres. C'était il y a tout juste un an, l'anniversaire des 40 ans du suffrage féminin en Suisse. Le premier reportage de l'Instant Roman, rediffusion. Le 7 février marque le 40e anniversaire du suffrage féminin en Suisse. Les femmes ont en effet attendu jusqu'en 1971 pour obtenir leur droit de vote au niveau fédéral. La bise glaciale n'a pas empêché les plus téméraires à faire leur course en cette première semaine de février. Ce sont en majorité des femmes qui bravent le froid pour acheter carottes, pain ou fromage. Ces femmes qui, il y a 40 ans tout rond, ont pour certaines vécu une véritable révolution. Une Suisse lente. Il aura fallu en effet attendre le 7 février 1971 pour qu'enfin les femmes puissent voter au niveau fédéral. Quasiment un record d'Europe, puisque seul le Liechtenstein avait été plus long. Alors que reste-t-il de ce jour marquant dans les souvenirs des anciennes? Et comment ce droit de vote se traduit-il dans les actes citoyens des générations suivantes? Jeunes ou moins jeunes, les femmes désertent les urnes. 40 ans plus tard, les femmes profitent-elles réellement de leur droit électoral? D'après une étude publiée le 26 janvier dernier par Le Matin Dimanche, le beau sexe use de moins en moins son bulletin. La participation féminine a en effet baissé de 38 à 26% depuis 1971. Adelina, jeune femme de 18 ans, avoue ne pas voter systématiquement, faute de connaissances sur les objets. « Je vote, mais ça dépend des sujets. Il y en a que je ne comprends pas, que je n'ai pas suivi ou qui ne me concernent pas, » dit-elle. À l'évocation du retard de la Suisse en matière de suffrage féminin, la jeune fille ouvre de grands yeux. « Je ne savais pas, non. Ma mère ne m'en a jamais parlé. D'ailleurs, elle ne vote pas. » Les jeunes femmes votent surtout sur des sujets de société. Sur ces thèmes, leur voix est d'ailleurs déterminante. À titre d'exemple, selon le dernier sondage SSR, 55% des électrices seraient favorables à l'initiative pour la protection face à la violence des armes contre 39% des électeurs. Le monde bancaire suisse a été touché par la démission d'Oswald Grubel de la présidence de l'UBS. Un reportage qui fut diffusé en octobre 2011. Rediffusion. Une annonce choc pour la Suisse en elle-même, mais plus particulièrement pour le monde bancaire international. Le patron d'UBS, Oswald Grubel, a présenté sa démission suite à l'affaire de fraude londonienne. L'affaire du trader frauduleux chez UBS aura finalement coûté son poste au directeur général de la banque suisse. L'établissement a annoncé ce samedi dans un communiqué le départ d'Oswald Grubel. Aujourd'hui, le conseil d'administration d'UBS a accepté la décision d'Oswald Grubel, directeur général du groupe, de se retirer de ses fonctions. Le conseil d'administration a demandé à Sergio Ermotti d'assumer cette position par intérim. Cette nomination entre en vigueur avec effet immédiat, déclare UBS. Le conseil d'administration du groupe était réuni vendredi en session plénière à Singapour. Au départ, Oswald Grubel comptait pourtant défendre sa place. Selon la presse helvétique, il devait profiter d'un rendez-vous à Singapour avec le fonds souverain GIC, qui détient 6,41% d'UBS, pour demander au conseil d'administration de la banque un vote de confiance. Il souhaitait obtenir son aval pour rester aux commandes jusqu'au début 2013 et pour mener à bien la restructuration de la banque d'affaires et de la gestion de fortune d'UBS. Il faut le dire, la banque d'investissement, c'était plus qu'un travail pour M. Grubel. L'ampleur de la fraude du trader londonien Kweku Adeboli aura eu raison de cette détermination. Le conseil rejette la décision d'Oswald Grubel. Ce dernier estime qu'il est de son devoir d'assumer la responsabilité pour les récentes affaires concernant les opérations de négoce non autorisées. Cette affaire, découverte le 15 septembre dernier, a provoqué des remous dans le monde de la finance. Les agences de notation Standard & Poor's et Moody's ont immédiatement placé sous surveillance, avec implication négative, la note de la dette à long terme A+ de la banque suisse. L'affaire a conduit à la démission de M. Grubel, mais la réputation de la Banque internationale suisse en a aussi pris un coup. UBS traque les défaillances de son système de contrôle des risques. Les gendarmes des marchés financiers en Suisse et au Royaume-Uni ont également lancé des enquêtes indépendantes sur les circonstances des pertes subies par la banque. Le conseil d'administration est profondément déçu par la perte découlant des opérations non autorisées et il apportera tout son soutien à l'enquête indépendante. Par ailleurs, il fera en sorte que des mesures d'accompagnement seront mises en place pour empêcher qu'un tel cas puisse se reproduire à nouveau à l'avenir, promet UBS. Il faut dire que l'établissement bancaire est sous pression. Alors qu'il tentait ces dernières années de redorer sa réputation écornée par la crise des subprimes en 2008, la Federal Housing Finance Agency, l'agence fédérale américaine chargée de superviser le marché hypothécaire, l'accuse d'avoir revendu 4,5 milliards de dollars d'actifs toxiques aux agences de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac et lui réclame une contrepartie de 900 millions de dollars. La banque suisse fait également l'objet d'une enquête en France concernant les soupçons d'aide à l'évasion fiscale. Soucieuse de conserver la confiance de ses clients dont elle gère les fortunes, la banque leur a adressé une lettre samedi dernier. Vos avoirs sont en sécurité chez nous, assurait-elle. De son côté, Kweku Adeboli, le trader de 31 ans, a été maintenu en détention à l'issue de sa comparution jeudi devant le tribunal londonien. Le jeune homme restera emprisonné au moins jusqu'à sa prochaine audition le 20 octobre, a annoncé la juge. L'affaire a beaucoup de points négatifs pour la banque, mais elle en comporte également certains positifs. La Banque internationale suisse UBS repart sur de nouvelles bases et revoit sa gestion de risque. Il faut savoir qu'un État peut être détruit par la finance.
Tu n'oses pas lui dire.
Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie.
Qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime à la place des cris du daron qui menace de te jeter.
L'explosion attendue de la demande en énergie et en nourriture, ajoutée à celle de la démographie, va contraindre les gouvernements en Afrique ou en Asie à prendre des mesures de restriction ou à faire preuve d'originalité, estiment les décideurs réunis à Davos, en Suisse. Alors que la crise économique dans la zone euro préoccupe les esprits des participants au 42e Forum économique mondial de Davos, l'enjeu de nourrir et de pourvoir en énergie une population mondiale grandissante provoque des maux de tête à bien des invités. Selon le chef du gouvernement éthiopien, le coût élevé de l'énergie classique pourrait bénéficier aux pays en développement en les obligeant à accélérer le rythme de l'innovation. Les responsables des groupes pétroliers ont également admis qu'ils étaient confrontés à la demande toujours grandissante en énergie fossile. Les villes asiatiques ont besoin de plus de voitures, comme j'ai besoin d'un trou dans ma main, a lancé Chandan Nair, fondateur de l'Institut mondial pour demain, dont le siège est à Hong Kong. Selon ce dernier, nous aurons besoin de normes drastiques pour empêcher la situation de dégénérer alors que le nombre de propriétaires de voitures ne cesse d'augmenter en Asie. Si les Chinois peuvent interférer avec le système reproductif, Alors, ils peuvent interférer avec la voiture, a lancé MNER en référence à la politique de l'enfant unique de Pékin. Imaginez un monde en 2050 où vous auriez 5 à 6 milliards d'Asiatiques qui consomment comme vous le faites, a-t-il lancé. Ce scénario provoquerait non seulement des difficultés dans l'approvisionnement en énergie, mais aussi en nourriture si l'Asie poursuit les tendances des pays industrialisés et consomme plus de viande. Le PDG du groupe agroalimentaire anglo-néerlandais Unilever, Paul Polman, a estimé qu'il était vital de trouver des nouvelles solutions pour nourrir une population mondiale grandissante. Le système que nous avons mis en place a été bénéfique pour de nombreuses personnes, mais il y a besoin de changements importants, a-t-il souligné. Il existe toujours 1 milliard de personnes qui vont se coucher chaque soir avec la faim au ventre et ce chiffre continue de croître, selon Polman. Les jeux sont faits à Londres, celle de ceux de la rédaction. Les anneaux olympiques planent sur Londres depuis déjà quelques mois. Impossible de se promener dans les rues de la capitale anglaise, de prendre le métro ou d'acheter le moindre produit sans tomber sur le fameux drapeau conçu par Pierre de Coubertin. Le compte à rebours entame sa dernière ligne droite puisque dans 6 mois exactement, le 27 juillet à 19h30, 20h30 heure suisse, débutera la cérémonie d'ouverture des 30e Olympiades. Même si les Jeux d'Athènes se sont déroulés il y a déjà 8 ans, le souvenir de l'achèvement in extremis des sites demeure dans la mémoire de tous les membres du comité d'organisation londonien et du comité international olympique. Les délais de construction des enceintes sportives ont cette fois été globalement respectés par l'autorité olympique de livraison, l'entité publique britannique en charge de l'infrastructure des sites. Il ne nous reste plus qu'à achever l'enceinte de waterpolo, indique l'un de ses représentants. Les stands de tir seront terminés cette semaine, ainsi que le village olympique. Après, le comité d'organisation en charge de la finalisation des sites doit s'attaquer à de nombreux détails pour qu'ils puissent être vraiment opérationnels, comme l'ajout de parking dans le village, la plantation de la végétation, etc., dit ce même représentant. Traditionnellement, les organisateurs des Olympiades cherchent à finir les sites environ 6 mois avant les épreuves, afin d'avoir le temps de les tester. La piste du stade olympique a ainsi été posée en octobre et le centre de natation a connu ses premiers utilisateurs cet automne. Les enceintes des Jeux de Pékin avaient été terminées bien plus tôt car, 4 ans après le couac grec, les organisateurs, dont le budget était quasiment illimité, voulaient exposer la capacité de la Chine à être prête en temps voulu. Londres peut d'autant moins se permettre ce luxe que son budget lui pose de sérieux soucis depuis 4 ans. Dans son dossier de candidature rempli à la fin 2004, le comité londonien avait estimé le coût de ses infrastructures à 2,99 milliards de livres, soit environ 4,48 milliards d'euros, dont 2,25 milliards, 3,37 milliards d'euros, devaient être payés par l'État. 8 ans plus tard, il a triplé à 7,189 milliards, soit 8,48 milliards d'euros. En cause, la sous-estimation délibérée ou non des coûts de construction des sites qui ont au moins doublé, des infrastructures de transport et de la décontamination du site où se situe aujourd'hui le parc olympique. Le président de l'autorité olympique de livraison, Jack Lemley, a d'ailleurs été débarqué en octobre 2006 après avoir décrit la croissance exponentielle des coûts à des ministres qui, rapporte-t-il, ne voulaient entendre que de bonnes nouvelles. Le président du comité d'organisation Sébastien Coe, champion olympique de demi-fond en 1980 et 1984, utilise depuis lors ses talents d'orateur et ses sourires pour tenter d'amadouer les associations de contribuables qui acceptent mal ses dépenses à l'heure des mesures d'austérité. Et ce n'est pas tout. Les frais liés au déroulement de la quinzaine, qui devaient être autofinancés, ne le seront pas. L'État dépensera donc un peu plus de 2 milliards de livres supplémentaires, ce qui propulsera ses dépenses totales à 9,298 milliards de livres, soit 10,97 milliards d'euros. La situation financière n'est toutefois pas encore stabilisée, puisque les autorités ont avoué fin décembre avoir doublé les dépenses liées à la sécurité. Malgré sa volonté de ne pas répéter l'erreur commise en 2008 à Pékin, où l'omniprésence des 100 000 membres de la police et de l'armée avait gâché la fête, 23 700 agents chargés de la sécurité seront finalement déployés, alors que les organisateurs en avaient prévu deux fois moins. Un navire de guerre sera mis en alerte sur la Tamise et des missiles solaires installés aux abords de la capitale. Sébastien Coé a là encore voulu arrêter le feu. « Nous voulons éteindre tout risque, mais nous ne voulons pas que les visiteurs aient l'impression de s'être promenés dans une ville assiégée, après avoir été filmés tous les 20 pas et repoussés des trottoirs. Nous voulons qu'ils partent en se disant qu'ils ont passé ici un moment extraordinaire et qu'ils ont envie de revenir », dit-il. Mesdames, Messieurs, cette édition touche à sa fin. Nous nous retrouvons le 1er mars pour une édition classique de votre journal de l'information, l'Instant Roman. À très bientôt sur les ondes de Radio Chico. Je rends maintenant l'antenne au studio Radio Chico de Goldbach. Romain Gollet, Radio Chico Romandie, Estavayer-le-Lac.